Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, nous allons continuer sur la vie d'Abraham. Et je vous rappelle que nous étudions l'homme qui a reçu la plus grande promesse de toute l'histoire de l'humanité. Et nous apprenons de lui, nous apprenons les clés d'une destinée réussie malgré qu'il était aussi homme. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des personnages bibliques que nous aimons bien les lire. Certains, comme Abraham, sont même tellement cités comme un personnage central de l'Ancien Testament que nous avons des leçons à en tirer. Et particulièrement dans la vie d'Abraham, ce soir, nous allons en parler d'une sérieuse. Et nous apprenons les principes divins qui régissent notre destinée. Parce que Dieu ne nous appelle pas à des petites choses. Mais Dieu est le Dieu de l'infini. Et malheureusement, les chrétiens se contentent toujours de petites choses. Non, tu ne dois pas te contenter de petites choses. Tu dois vraiment demander à Dieu quelle est ma destinée, Seigneur. Tu dois dire à Dieu, je ne peux pas accepter de quitter cette terre sans avoir eu un impact. Sans avoir fait ce pourquoi je suis né. Et tu dois le chercher vraiment au pied du Seigneur. Mais sache une chose, quand Dieu te révèle sa volonté dans ta vie, plus c'est grand, plus ça veut dire que tu vas avoir des ennuis. À grande vision, grands ennuis. Grandes difficultés. Les choses ne se passent pas par hasard. Et nous avons beaucoup de, je dirais, de principes divins à comprendre. Donc on sait que Dieu va dire à Abraham une première parole hein, dans Genèse 12, brièvement. On va faire une petite révision. Et Dieu lui donne juste une parole, pars de ta maison, de la maison de ton père. Et Dieu lui fait des immenses promesses. Et Abraham part, obéit dans la foi, nous est-il dit dans la parole de Dieu. Et je vous ai montré que quand Dieu vous parle une première fois, ne cherchez pas à avoir tous les détails au début, sinon vous allez vous tromper. Dieu va vous révéler des choses au fur et à mesure de votre obéissance. Comme je le dis souvent, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Mais Dieu aussi doit apprendre à nous faire confiance, c'est-à-dire il nous teste dans notre obéissance. C'est pour ça que où que tu en sois aujourd'hui, prends au sérieux tout ce que tu as aujourd'hui dans tes mains. Arrête de te plaindre et de dire « Oh Seigneur, si j'avais, si j'avais, si j'avais. » Si Dieu ne t'a pas donné plus, c'est pour l'instant tu n'es pas encore capable de contenir plus de sa part. C'est difficile de constater ça dans nos vies parfois. Des fois on se dit « Mais pourquoi Seigneur, tu ne mets pas tout de suite dans ce que tu m'as promis ?» Parce qu'au moment où Dieu t'a parlé, il te voit dans un état prophétique final. Et pour l'instant, tu es à des millions de kilomètres de cet état prophétique final. Il y a un immense fossé entre là où Dieu te parle, là où tu en es, alors que Dieu te parle, et là où il te veut. Et cet immense fossé ne sera comblé qu'à partir du moment où tu comprendras les principes divins.
Donc pour arriver à ta destinée,
tu seras
complètement transformé.
Et
c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. La plus grande transformation qui s'opérera, c'est ta transformation.
Et
si tu comprends ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc il va falloir que tu sois changé, que tu grandisses, que tu laisses certaines choses, que tu abandonnes tout pour le suivre, pour le servir, pour l'aimer. Et Dieu testera tout dans ta vie. Et nous allons voir qu'il y a des défis. Il y a certains défis qui sont devant nous et que nous devons relever. Alors, Abraham part, effectivement. Et lorsqu'il obéit au Seigneur, eh bien Dieu va se révéler une nouvelle fois à lui. Et il va lui donner plus de détails sur sa destinée. Ensuite, nous savons qu'il fait une erreur. Il commence. Et je vous ai montré qu'il n'existe pas de destinée sans erreur. Pas de destinée sans incident de parcours. Les plus grands hommes de Dieu vous diront: Si j'avais pu ne pas faire telle ou telle erreur dans ma vie. Parce que tous les hommes de Dieu ont fait des erreurs. Tous ceux qui ont eu des destinées avec Dieu ont fait des erreurs. Maintenant, l'important, c'est comment ils ont managé, géré leur erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours comprendre. Abraham fait une première erreur en faisant passer sa femme pour sa sœur. Il descend en Égypte. Parce qu'il y a de l'adversité. Il y a une famine, donc il fuit la famine. Et je vous ai montré que souvent c'est ce que nous faisons. Souvent ce que nous faisons, c'est soit nous nous décourageons quand il y a l'adversité, ou alors ce que nous faisons, eh bien nous nous écartons de notre territoire de destinée. Ensuite, nous avons vu qu'il va se séparer avec Lot, et on a vu que Abraham va avoir un cœur qui laisse Lot prendre les opportunités. Et je vous ai montré que les opportunistes ne réalisent jamais leur destinée. Nous avons beaucoup de gens qui sont opportunistes. Des gens qui sont là, qui cherchent des opportunités pour avancer. Ne cherche pas les opportunités. Laisse Dieu t'amener les opportunités. Et apprends à reconnaître quand elles sont divines ou pas. Sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te retrouver par terre. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver devant différents choix. Et Lot était un opportuniste, il a choisi la chair. Et nous verrons, je vous l'ai déjà dit, mais nous le verrons un peu plus tard, l'histoire de Lot. Lot a été un naufragé. Sa vie a très mal terminé. Alors qu'il était proche d'un homme qui était loin de la part de Dieu. Et quand Dieu vous donne des rendez-vous divins, des personnes auxquelles vous êtes proches,
il
faut faire très attention de ne pas perdre ses relations. Et Abraham, lui, a dit clairement: va où tu veux, là où tu iras, je n'irai pas. Ensuite, fin du chapitre 13, on voit qu'Abraham, nous l'avons vu, Dieu va lui redonner une nouvelle révélation. C'est la troisième révélation qu'il a. Et là, Dieu lui précise, il lui dit: voilà, c'est ce pays que je vais donner à ta descendance. Et je vous ai montré que quand Dieu nous parle de notre destinée, il nous donne d'abord les grandes lignes. On obéit, ensuite il précise un peu plus. On obéit encore, il précise un peu plus. On continue à obéir, il précise un peu plus, jusqu'à temps de nous donner beaucoup de détails. Mais ne pensez pas qu'il vous donnera tous les détails au début, et ça, ne cherchez pas dans la présence de Dieu, ou soi-disant dans la présence de Dieu, tous les détails de votre destinée au début. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire, laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Donc Dieu, le Seigneur lui montre, et là il va parcourir, il va explorer son territoire.
Et
je vous ai montré qu'il est important de rêver.
De rêver les rêves de
Dieu. Et de bien rêver les rêves de Dieu.
Passer
du temps dans les promesses que vous avez. Jusqu'à temps qu'elles descendent dans votre ADN spirituel. C'est vraiment ce qui va se produire dans votre vie. Si vous méditez. Si vous passez du temps à rêver les rêves de Dieu pour vous, parce qu'il va falloir que ça s'imprègne en vous, parce que vous allez rencontrer une multitude de défis, une multitude d'obstacles qui seront à la fois à l'intérieur de vous et qui seront aussi à l'extérieur de vous. Et ce sont des choses qu'il faudra que vous appreniez à relever comme défis. Et c'est pour ça qu'il faudra de la foi, il faudra du courage. Il vous faudra la persévérance. Il vous faudra accepter aussi de gérer vos erreurs. De prendre vos responsabilités. Et tout cela, ça va faire partie de la vie d'Abraham. Et Dieu lui dit, tu explores. Et il explore. Il explore le pays. Et il y a une différence entre explorer le pays et posséder le pays.
Nous
savons, les 12 espions ont été explorer le pays et n'ont jamais possédé. Sauf les deux.
Mais
souvent les gens commencent à explorer leurs promesses, mais ils meurent dans leurs promesses avec leurs beaux rêves. Et il va falloir que tu apprennes de passer d'explorer à posséder les promesses de Dieu. Ensuite, on voit qu'Abraham va près de Mamré et Hébron, donc on a vu qu'il se fortifiait dans la communion avec le Seigneur. Il y avait des symboles ici qu'on a étudiés. Ensuite, nous avons vu au chapitre 14 cette bataille qu'Abraham remporte contre plein de rois. Et là où, en fait, il va y avoir l'apparition de ce Melchisédek. Qui vient comme ça, et c'est une figure de Christ. Et nous avons expliqué qui était Melchisédek et pourquoi la Bible dans l'hébreu reprend cette image de Melchisédek. Ensuite, Dieu va refaire la promesse à Abraham avec plus de précision au chapitre 15. Et là je vous ai montré que Abraham va avoir une rencontre avec Dieu très forte. Abraham est en train de réfléchir comment le plan de Dieu va s'exécuter. C'est souvent le problème que nous avons, et ça va lui arriver plusieurs fois d'ailleurs dans sa vie. Il y a une fois
où
il va se poser une question, et il y a une fois où il va agir. Au chapitre 15, il se pose la question. Il dit au Seigneur, oui, tu me fais la promesse d'une grande descendance. Mais finalement, bon, moi j'ai pas d'enfant. Donc ça va être quoi? Ça va être Eliezer, le chef de, enfin le grand intendant, mon grand intendant qui est fidèle. Donc en fait, Abraham dit à Dieu, bah voilà, ça va être lui qui va prendre le flambeau. Et souvent nous nous trompons, frères et sœurs. Nous pensons à certaines personnes ou à certaines choses sur la façon dont Dieu va réaliser ses plans pour nos vies. Si le Seigneur vous a réellement parlé, n'essayez pas de réfléchir comment ça va se produire. Moi j'ai fait souvent cette erreur là et je vous garantis, maintenant je ne m'en occupe plus. J'obéis et je dis, Seigneur, merci, c'est toi qui pourvois aux ressources. aux ressources humaines, aux gens, et aux finances. Moi, je ne m'en occupe pas, j'avance. Parce qu'avant, j'étais tout le temps en train de réfléchir sur comment ça allait se produire, comment faire pour avoir telle personne, faire comme ceci, faire comme cela. J'ai arrêté de lutter, entre guillemets, contre Dieu pour essayer de lui montrer comment il doit réaliser son plan dans ma vie.
Parce que
souvent, c'est ce que nous faisons. Nous, entre guillemets, luttons contre Dieu. Pour essayer de lui faire admettre qu'on a, voilà comment il devrait faire. Je vous le dis encore ce soir, laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ce que tu peux faire, tu le fais. Marche dans la foi, dans l'obéissance. Et tu le laisses être Dieu. Laisse-lui de l'espace pour intervenir. Pour se glorifier. Pour faire éclater toute sa gloire. Plutôt que d'essayer de t'arranger pour bricoler ton truc. Et d'essayer absolument que les choses se produisent. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment mauvais dans nos vies. Laisse Dieu être Dieu. Crois pour le meilleur. Obéis simplement. Aie un cœur docile, un cœur obéissant. Aie de la bonne volonté. Et tu verras comment Dieu va accomplir les choses. Tu seras étonné. Le problème, c'est quand nous recevons des promesses, nous sommes tout le temps en train de vouloir essayer de les exécuter. Nous essayons toujours en train de réfléchir avec nos petites têtes sur comment ça va s'accomplir. Et je vous dis une chose, le jour où vous en arriverez à vous dire, c'est à dire au Seigneur, « Seigneur, je n'ai pas la moindre idée comment tu vas faire ça. » Mais tu m'as demandé de le faire. Donc je le fais. Là, je vous garantis. Vous allez marcher dans une liberté et attirer des faveurs divines. Attirer des rendez-vous divins. Attirer des choses extraordinaires que vous ne recherchez même pas. Mais qui viendront à vous parce que ni plus ni moins vous laissez Dieu être Dieu. Abraham avait du mal à comprendre et il va faire plusieurs fois des erreurs. Là il dit au Seigneur, bah, je m'en vais sans enfant, donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire toi? Il se voyait déjà fini, il se voyait déjà mort et il essaye de placer Eliezer, parce que c'est le seul qui voit dans son entourage. Et Dieu lui dit, non, c'est celui qui va naître de tes entrailles. Et là, Dieu va faire une alliance, il va confirmer. Vous savez, il y a des temps où vous parlerez à Dieu. Ça va être des temps qui vont marquer votre vie. Arrête de te plaindre toutes les 5 minutes. Sois obéissant ou obéissante pour les dames. Soyez fidèles. Ayez de la bonne volonté. Et je vous assure, laissez Dieu être Dieu. Et il y a des moments particuliers où Dieu va réveiller en vous, dans votre esprit, ce qu'il a mis il y a des années. Et d'un seul coup, ça va se réveiller dans votre esprit. Et là, ça sera le bon moment, vous le saurez. Et là, tu diras, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et là, Dieu va te parler précisément. Et d'un seul coup, il va y avoir comme si des portes s'ouvrent, comme ça. Et tu as juste à avancer. Alors qu'en attendant, tu n'arrêtais pas d'essayer de forcer des portes. Je vous assure, ces moments-là, ça arrive à un certain nombre de fois dans nos vies. Et là, c'est des discussions cœur à cœur avec Dieu. Et tu es là. Moi, je me souviens, il y a bien des années, il y a très longtemps, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un terrain où on puisse vraiment travailler et planter ta parole. C'était vraiment le désir de mon cœur que Dieu m'envoie dans un endroit où il y avait des cœurs fertiles.
hari imitima
où il y avait un champ, je me souviens de ces prières, c'était un champ vraiment où je peux travailler, Seigneur.
Hari umurima, umurima nshobora gukoreramo.
Et le champ, c'était le Burundi.
Umurima nawo wabaye Burundi. Amen.
C'est clair. Pour moi, c'était clair.
Jewe vyari bitomoye.
Et je connaissais rien du Burundi à l'époque.
Nta na kimera ninzi ku Burundi.
Et vous voyez, il y a des choses comme ça et ça c'était du cœur à cœur.
Rero wari umutima uganira n'umuntu.
Je me souviens quand avant bien qu'on commence enseigne-moi, le cœur à cœur avec Dieu, c'était Seigneur. Ces enseignements, ils en bénéficient ici. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas aller sur Internet?
Et
c'était du cœur à cœur avec Dieu. Et vous connaissez le reste de l'histoire, comment le pasteur Alice, à l'époque, qui n'était pas pasteur, m'a appelé. Elle avait distribué des enseignements sur CD là, à des Français. Et on était à des milliers de kilomètres, on était en plein milieu de la guerre civile ici. Mais Dieu n'a pas de distance, il s'en fout de tout ça. Il a un champ, un espace, un territoire pour toi. Et après, ces temps-là se transforment, plus vous obéissez, en des choses beaucoup plus simples. Après, vous avez la direction divine, vous savez. Vous savez? Mais au début, c'est des cœurs à cœur avec Dieu. Il faut vraiment que Dieu là vienne et appuie entre guillemets sur votre cœur, presse votre cœur. Et là il y a quelque chose qui sort de vous. Et Dieu goûte le jus qui est sorti de votre cœur.
Et
il dit iragio chez Kabisa.
Il dit c'est très bon.
Et c'est là justement où Dieu voit votre cœur. Mais ça, c'est des temps particuliers. Ce n'est pas toutes les 5 minutes.
Oh,
Seigneur, quand est-ce que ça va se passer? Oh, Dieu, tu m'as montré ça. Bla, 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 bla,
bla.
Et Dieu n'écoute même pas tes histoires. Vous savez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous disons à Dieu que Dieu ne veut même plus écouter. Parce qu'il sait exactement ce qu'on va lui dire. Je sais ce que tu vas dire. Mais comme tu n'écoutes pas, ah ben non, Seigneur. Non, t'en fais pas. Il t'a parlé une fois. Il t'a confirmé ce qu'il avait pour toi. Sois fidèle. Marche dans les choses divines. Comprends. Et c'est lui qui t'élèvera. Même si les hommes t'élèvent, ça ne servira à rien. C'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'églises et dans le mouvement, on élève les hommes.
Il faut
tous être grands, il faut avoir des grands titres. Il faut montrer la moindre chose que le Seigneur a fait dans nos vies ou par nous parce qu'on a prié, il faut le montrer partout. Et des fois on cherche la gloire du Seigneur là-dedans, on se demande où elle est. Non, laisse Dieu t'élever et reste dans la simplicité. Il y a récemment, j'ai lu d'ailleurs, il faut que vous alliez sur ce site. Vous allez aller sur le site de Reinhard Bonnke. Il a fait une citation. Il a dit, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ayons des grands noms de prédicateurs. En gros, sa citation, c'était, Dieu ne nous appelle pas pour qu'on se vante nous-mêmes. Mais qu'on aille prêcher son évangile. Ta récompense, le nom nouveau, tu l'auras dans le ciel. Et rappelez-vous, tous ceux qui se glorifient sur cette terre perdront leur récompense. Jésus le dit bien au début des évangiles.
Donc,
apprenons à rester dans la simplicité, l'humilité. Moi, j'aime bien les gens discrets mais efficaces. Les gens qui font beaucoup de bruit et qui ne portent pas de fruits, ça ne m'intéresse pas. Et nous en avons de plus en plus aujourd'hui.
Ils
se vantent d'un million de trucs. Et finalement, ils prennent toute la gloire sur eux-mêmes.
Et
c'est vraiment petit dans la mentalité. Chapitre 16. Là, nous allons voir des défis. Les défis des visions. les défis des destinées. Alors, on va d'abord regarder du verset 1 au verset 5. Cette histoire va nous enseigner beaucoup de choses sur la destinée. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est Sarai, dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Je vais vous dire pourquoi elle a dit ça. Abraham écouta la voix de Sarah, ou Sarai. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'ils eurent habité 10 ans dans le pays de Canaan. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5, et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi.
Kumurongo wa mbere ngo Sarai mukaburamu ntiyari yaravyaye kandi yarafise inchoreke y'umunyegiputa kazi yitwa Hagari. Sarai abarira Aburamu atiraba uhoraho yanyimye ibyara. Endavyara ku nchoreke yanje kumbure nzoronkeraho akana kuriwe. Nuko Aburamu yumvira Sarai. Aburamu amaze imyaka 10 mu gihugu cy'Ikanani, Sarai umugore wiwe yabira Agari umunyegiputakazi inchoreke yiwe amuha Aburamu umugabo wiwe. Nuko ararira Agari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Sarai abarira Aburamu ati agakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe ko nashize inchoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye kwifise inda ica irankengera. Uhoraho naducire urubanza twe nawe.
Alors nous allons regarder maintenant ce qui est souvent un défi dans nos destinées.
Reka turabe kimwe gikunze kutugora muri kazoza kacu.
Le premier défi que vous allez quasiment tout le temps trouver dans votre destinée,
ikintu muzokwama musanga muri kazoza kanyu,
il s'appelle le temps.
Citwa umwanya.
Le temps. Le temps est quelque chose qui des fois nous rend fous. Les mois passent, les années passent. Et Seigneur, il n'y a toujours rien. C'est quand le jour, Seigneur, où je pourrai commencer à te servir. Où je verrai les guérisons, les miracles, la puissance de ton Saint-Esprit sur moi. C'est quand le jour où je verrai la grande entreprise que tu m'as montrée un jour. C'est quand je verrai telle et telle chose se produire dans ma vie. Ce que tu m'as montré, Seigneur. Quand? Ça, c'est un facteur qui nous pousse souvent à faire des bêtises. Et ici, Abraham et Sarah vieillissaient. Le temps passait. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient sortis de la maison du père d'Abraham. C'est long, 10 ans. Et pour l'instant, ils vivaient sous des tentes. Ils avaient vu des serviteurs, des servantes qui s'étaient mariés, qui avaient des enfants tout autour d'eux. Rappelez-vous, ils vivaient en groupe, il y avait 200 ou 300 personnes facilement, même plus encore. C'était des caravanes, ce qu'on appelait, des tentes. Et ils se déplaçaient d'endroit en endroit avec tous leurs troupeaux, leurs richesses, etc. Et Abraham et Sarah se regardaient. Mais certainement qu'ils voyaient régulièrement des enfants naître. Et eux, toujours rien.
Le temps.
Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2 et jusqu'au verset 4, il y a une parole très importante pour les destinées. Et ce sont des paroles, vous savez, il y a des paroles spécifiques sur la destinée dans la parole de Dieu. La précipitation nous fera toujours faire des erreurs. Quand nous sommes là en train, entre guillemets, d'attendre, c'est parce que c'est un temps de préparation pour nous. Si Dieu ne réalise pas les promesses pour l'instant, c'est que tu n'es pas prêt. Donc tu dois chercher de ton côté. Arrête de chercher du côté de Dieu. Arrête d'essayer de venir constamment devant Dieu en disant, Seigneur, il faut que tu réalises maintenant, Seigneur, maintenant, maintenant, Seigneur, maintenant, maintenant. Si tu fais ça, tu vas faire ce qu'Abraham et Sarah ont fait. Un
Ismaël.
Et souvent, on en parle dans les destinées. Ismaël ne sera pas le fils de la promesse. Et cela va être vraiment un gros, gros problème sur les promesses d'Abraham. À la fois sur son territoire pour le fils promis. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Pour ceux qui étaient là, Dieu lui a promis au chapitre précédent, chapitre 15, hein, c'est ça, ouais, chapitre précédent, c'est le chapitre 15. Il lui a promis que sa descendance aurait du territoire de l'Euphrate, la Mésopotamie, l'Irak, l'Iran, jusqu'au golfe persique.
Tout
ce qui est Iran, Irak actuel.
Iran et l'Irak,
la Syrie, la péninsule arabique. Bien sûr, la Syrie, Israël.
Syrie et Israël.
Jusqu'en Égypte. C'était normalement tout ce qui était prévu pour la descendance d'Abraham. S'il avait eu un fils. Avec
Sarah.
Mais là, il va en avoir deux. C'est pour ça que ce territoire sera partagé. Revenons à Habakkuk, merci. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, c'est-à-dire que régulièrement on y pense. Verset
3. Kuko ivyerekanywe bifise igihe byashingiweho kandi vyihutira gushika ko ntibizobesha naho vyotebagana ubirorere kuko
OK, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle parle, attends-la car elle s'accomplira certainement. Verset 4. Mais voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi.
Ariko mugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe.
Donc le premier défi, c'est le défi du temps.
Rero ikintu cambere kiduhiga
l'impatience, la précipitation.
Le kwihutagiza
ubutarindira. Le vouloir rentrer tout de suite dans ce que Dieu veut que tu fasses.
Ugashaka kwinjira ubwo nyene mu vy'Imana.
Et quand tu es impatient, qu'est-ce que tu fais?
Hama iyo utarindiriye ukora iki?
Tu prends des décisions.
Ucufata ingingo
et tu prends des chemins.
Ugafata inzira
où la lumière de Dieu ne se trouve pas.
Inzira aho umuco w'Imana utari.
Et là, tu es en train de violer une grande loi spirituelle. L'impatience. Il faut que ça se fasse vite, Seigneur. Tout de suite. Seigneur, je ne peux plus attendre. Mais si, tu peux encore. Tant que tu as un souffle de vie, tu peux attendre. Tu peux accomplir beaucoup plus, même les 5 dernières années de ta vie, si tu es vraiment prêt, qu'en 50 ans où tu es complètement à côté de ce que Dieu veut. Moïse était impatient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en a pris pour 40 ans. Tous ceux qui ont été impatients dans la parole de Dieu ont retardé leur destinée.
bararindirije amasezerano yabo.
Et on verra qu'Abraham et Sarah vont être impatients.
Turaza kubona yuko Abrahamu na Sarai batashoboye
kwihangana. Ils vont retarder leur destinée.
Hama nabo baraca baratevye amasezerano yabo.
L'impatience est un des plus grands retardateurs de destinée.
Ukutamenya kwihangana ni ikintu kizotevye amasezerano yawe, kizotevye kazoza kawe.
Si Dieu n'accomplit pas ses promesses tout de suite pour toi,
ça
veut dire que tu n'es pas prêt. Que si Dieu te donnait ce qu'il voulait te donner,
tout
de suite, ce qui se produirait, c'est que tu le gâcherais. Parce que tu n'as pas encore le caractère. Dieu avait dit clairement que c'est au travers de lui et de Sarah, sa femme, qu'il aura une descendance. Alors le premier défi, c'est le temps. Je suis pressé, je veux tout de suite. Je vois un de mes amis, il a déjà accompli ça. Et moi, j'ai le même sort d'appel, je ressens les mêmes choses, je dois l'accomplir. Tu cours et tu tombes. Exactement ce qu'Abraham et Sarah ont fait. Le deuxième défi que tu auras, ça va être le défi, je dirais, de cet obstacle qui, justement, Dieu t'a promis l'inverse de ce que tu vis actuellement. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un homme et une femme à qui il a promis une descendance incroyable, dont le problème numéro un n'était pas un problème de caractère, c'était pas des gens méchants, c'était pas des gens bizarres, dont le problème numéro un n'était pas la richesse, ils étaient extrêmement riches, dont le problème numéro un n'était pas l'influence, ils étaient extrêmement influents, mais dont le problème numéro un, c'était qu'ils avaient un problème de stérilité. Et Dieu, souvent, nous appelle là où nous sommes les plus faibles. C'est contrastant, mais souvent on voit ça. Dieu a appelé David à être un grand roi et c'était un garçon inéduqué. Dieu a appelé quelqu'un comme Pierre, qui ne connaissait qu'une chose, c'était son petit lac, son petit bateau, et son filet pour aller pêcher. Je suis quasiment certain que Pierre n'était jamais sorti de son village avant de connaître Jésus, à peu de choses près. Dieu parfois, souvent nous appelle là où justement il y a quelque chose, il y a une faiblesse dans nos vies. Et c'est justement pour montrer sa gloire. C'est pour montrer sa gloire. Il t'appelle dans ce domaine-là. Parce qu'il va mettre ses dons sur toi. Et il va falloir que tu développes tout ce qu'il te donne. Franchement, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas appelé quelqu'un qui pouvait procréer facilement? On aurait évité deux générations. Il aurait pu être comme Jacob, en avoir 12. On n'avait pas besoin d'avoir Isaac, et puis Jacob, et puis les 12. Mais Dieu parfois a des voix qu'on ne comprend pas. Mais souvent il vous appellera là où vous vous sentez le plus inadéquate. Quand vous écoutez la voix de Dieu, c'est souvent ce qu'il va vous dire. Dieu des fois appelle quelqu'un qui est très timide à prêcher.
Un sacré défi.
Dieu appelle quelqu'un qui parfois a peu d'éducation à devenir un grand businessman. Dieu nous appelle souvent là où il y a une faiblesse. C'est très souvent le cas. Et là, il va nous travailler jusqu'à temps d'être transformé. Alors ça, c'est le deuxième défi que tu vas trouver. Et ce défi comporte deux volets. Ça va être le défi de ton caractère d'abord.
Bizoba ivyerekeye ingeso zawe bwa mbere.
En leadership, on appelle ça les couvercles internes.
Mu vyerekeye uburongozi bavuga nti ibintu bibi
bifutse. Qui essaie de t'empêcher d'aller plus haut.
Bikubuza kugenda ngo urenge.
Ce que tu à l'intérieur de toi, des problèmes que tu peux avoir.
Ibintu muri wewe bishobora kuba bikugoye.
Qui risque de tout gâcher.
Bigashobora kubuza kazoza kawe kubanda.
Oui, par exemple, Judas, il a tout gâché, pourquoi?
Nk'ubu Yuda.
Parce qu'il aimait l'argent.
Byose byamubereye imfaguzo kubera iki? Kubera akunda amahera.
C'était le même problème pour Gehazi.
Ni ngorani mwana Gehazi. Waundi yakorera Elisa.
Il aimait l'argent.
Yara yakunda amahera.
Et je suis sûr que Dieu avait des destinées pour ces gens-là.
Kandi Imana yari ifise kazoza kuri abo bantu.
Mais ils ont tout gâché.
Ariko byababereye imfaguzo.
Saul a tout gâché.
Sauli byamubereye imfaguzo.
Il avait des problèmes internes terribles.
Kuko yari afise ingorane muri we nyinshi.
Par rapport à son leadership.
Bivanye n'uburongozi.
Un homme qui est refermé sur lui-même, qui se sent insécure, il ne peut pas être un bon leader. Un homme qui a de la jalousie ne peut pas être un bon leader. Pourtant, Dieu l'avait appelé à être le leader de son peuple premier. C'était un honneur extraordinaire. Un autre qui avait de gros problèmes, qui ne s'en est jamais sorti, c'est Samson. Samson, il a gâché sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas appelé, non. Il n'était pas loin, non, il était loin. Mais il avait des problèmes à l'intérieur. Il a utilisé les dons de Dieu pour assouvir ses passions. Et il s'est auto-détruit. Dieu va souvent mettre quelque chose en nous. Un appel particulier qui va te défier à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Là, Abraham avait un problème avec sa femme de santé. La stérilité. Et il ne pouvait pas avoir d'enfant et toute la promesse de Dieu reposait sur ça. Et vous savez, parfois Dieu nous donne une belle promesse et tout va reposer sur quelque chose. Si ça ne se produit pas, tu ne pourras pas voir la promesse de Dieu s'accomplir. Et c'est là où c'est difficile. C'est là où souvent il y a des pressions sur notre caractère. C'est là où les défis sont grands. Et tu es là face à toi-même. Le temps passait. Et Abraham avait ce défi. La vieillesse. La vieillesse. Et il n'était plus capable d'avoir d'enfants. Et pourtant, tout ce que Dieu lui avait dit
et confirmé
reposait sur la procréation. Et là, ils vont faire quelque chose de classique. C'est chercher une solution humaine. Encore une fois de plus, mais là, ça ira trop loin. Et là, c'est le troisième défi que souvent on rencontre. Ça va être le défi de la culture. Le défi de la culture. Ça, c'est quelque chose qui est fort dans toutes les cultures du monde. C'est le troisième défi que vous allez souvent trouver dans les destinées. Le défi de la culture. Pourquoi est-ce que Agar a eu cette idée de faire un enfant au travers de la servante? Est-ce que c'était quelque chose, une idée qui lui est passée par la tête en disant, après tout, il n'a qu'à avoir des enfants avec une autre femme? Eh bien, la réponse est non.
Ce
n'était pas une idée d'Agar. C'était la culture de l'époque. On a retrouvé, il y a bien des années, un certain code qui s'appelle le code d'Amourabi.
Amourabi.
Code d'Amourabi. C'est une loi.
Amateko.
Et Et en fait, c'est à peu près, ça date au 3e millénaire avant Jésus.
Et
on a retrouvé, donc, un peu avant l'époque d'Abraham, et on a retrouvé certaines lois. Et il était légal de faire des enfants avec sa servante, quand on ne pouvait pas avoir d'enfants, quand un couple n'avait pas d'enfants.
Muri cyo cyanditse rero ngo byari birekuriwe n'amategeko kuronka umwana biciye mu nshoreke yawe igihe wewe
ushobora kugira umugore wawe appartenant au couple à la famille.
Hamwe umwana akaca yitwa yuko ari umwana wabo bantu bafite
inshoreke. Donc c'était dans le vent, c'était dans la culture de l'époque.
Rero byari mu migenzo y'ico gihe.
Et c'est pour ça que Agar a eu cette idée remarquablement charnelle.
Nico gituma rero Sarai yaronse ico cyumviro cy'umubiri.
C'était vraiment charnel.
Mais
c'était la culture.
On
faisait ça partout.
Et c'était
même dans des textes écrits.
Et
quand Agar a proposé ça à Abraham, quand Sarah a proposé ça à Abraham, Abraham, il a dit, après tout, c'est ce qu'on fait.
Abraham yaravuze ati niko tubikora.
Oui, mais le défi de la culture est quelque chose dont il faut se méfier.
Ikikugenza giciye mu migenzo ni kintu tegeza kuraba neza.
Parce que nous avons tous des cultures.
Kuko twese turafise imigenzo.
Tous les pays où vous pouvez aller, il y a une culture.
Ibihugu byose uzojamwo birimo imigenzo.
Ça veut dire des habitudes.
Ni bintu bagenderamo.
Alors suivant les influences qu'il y a pu y avoir,
il y
a des fois des cultures horribles qui sont purement 100% sataniques,
surtout dans les
pays qui ont été trempés dans la
sorcellerie,
où les gens font des choses vis-à-vis de leurs enfants, etc., mais c'est épouvantable.
Mais
on dit que c'est la culture. Bon, il y a des cultures qui sont plus ou moins influencées par certaines, je dirais, des fois certains textes, ça peut être par rapport à la Bible.
Mais qu'on
peut déformer.
Mais
vous savez, dans chaque pays qui a connu le christianisme, où les gens ont reçu le Seigneur, pendant une période, quelque part, dans la vie de ce pays, il y a des choses qui vont changer dans la culture, parce qu'on va s'imprégner de la parole de Dieu. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas de parole écrite.
Mais
la culture était tout à fait acceptable. Dans la culture, c'était acceptable, même c'était légal de faire des enfants avec sa servante et dire, voilà, c'est nos enfants.
Mais
on peut remarquer plusieurs choses. D'abord, Sarah a quelque part de l'amertume. Verset 2, elle dit, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter.
Alors vous
voyez, ça c'était vraiment l'aspect, je dirais, la vision mauvaise que Sarah avait de Dieu. Dieu a fait ça contre moi, entre guillemets. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose contre nous?
Non,
la Bible est claire, Dieu est pour nous, jamais contre nous.
Comment
est-ce que le Dieu qui avait promis une descendance à Abraham et à Sarah pouvait empêcher Sarah d'avoir des
enfants?
Mais là, on voit bien le peu de connaissances sur le caractère de Dieu qu'ils avaient. Vous savez, nous, en Christ, nous avons beaucoup plus de connaissances sur Dieu qu'ils n'en avaient.
Donc
il faut apprendre à profiter de cette connaissance. Donc Sarah lui propose ça. Et
Abraham
écoute la voix de sa femme. Des fois les femmes ne sont pas les meilleures conseillères. Parfois elles peuvent l'être, mais pas toujours. En tout cas, là c'était un conseil extrêmement mauvais. Et ils ont laissé la culture venir les influencer. Et la culture, tant qu'elle ne déroge pas à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand elle s'oppose à la parole de Dieu,
je
dois laisser la culture. Et je dois fonctionner selon les principes divins. Alors des fois, on s'oppose. Il y a des gens qui vous diront, non, pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que j'obéis à la parole de Dieu. Oui, mais dans notre culture, nous devons faire ça et
ça.
Par exemple, souvent, dans pas mal de cultures ici en Afrique, on a des problèmes avec des mariages. Ici encore, ça va à peu près, mais je dirais dans certains pays, c'est terrible.
En Inde,
c'est la même chose. On présente des fiancés. Il y a des fois des fiancés. Le fiancé n'a jamais vu sa fiancée. C'est des mariages arrangés. Des pressions familiales gigantesques. Qui obligent des gens à se marier alors qu'ils ne se sont jamais vus, ils ne se connaissent même pas. Et la Bible est contre ça.
Vous
voyez, il y a des choses parfois qui sont culturelles, qui sont mauvaises.
Et il y en a d'autres
qui sont bonnes. Dans chaque culture, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Par exemple, ici, dans la culture burundaise, il y a vraiment de très bonnes choses.
Mais
il y en a d'autres.
Ah.
Donc, il faut se méfier parce que c'est contraire à la parole de Dieu.
Et
dans chaque pays, c'est la même chose, frères et sœurs. La culture ne doit jamais nous influencer pour prendre une décision. Ce n'est pas la culture qui doit influencer. En tout cas, pas celle d'où tu es né. C'est celle du royaume qui doit t'influencer. Là, tu prends des décisions selon la culture du royaume. La façon dont Dieu voit les choses. Dieu ne voyait pas dans son plan qu'Abraham aide Dieu, l'aide avec la culture. Il y a tellement de gens qui se prennent des prétextes pour gâcher leur destinée. Et c'est important que vous compreniez ça. Il
n'y
a pas de plan B, de plan C, de plan D avec Dieu. Ou comme vous dites ici, d'agenda caché. Bien caché. Avec Dieu, ça ne marche pas. Si Dieu t'a montré certaines choses, il va les accomplir. Ne cherche pas une voie humaine, une façon d'accomplir les choses.
Il
y a une chose que tu dois savoir dans ta vie. Tes plans vont payer tout de suite, mais ils vont te coûter plus tard. Ça, c'est une vérité biblique. Nos plans payent tout de suite. Tu es là, tu fais tes plans. Là, leur plan, c'était d'avoir un enfant, comme ça, Dieu allait accomplir sa promesse.
En
quelque sorte, ils avaient besoin d'aider Dieu, comme si Dieu avait besoin de notre aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour accomplir ses plans. Fais ce que tu dois faire, le reste il s'en occupera. Et là ils ont voulu aider Dieu. Ah, ça a payé tout de suite. Ils avaient un enfant. Sauf que après, ça a été la catastrophe. Abraham a limité sa promesse parce qu'il a voulu accomplir le plan de Dieu avec sa façon de faire. Donc nos plans vont payer tout de suite, mais vont nous coûter plus tard. C'est pourquoi nous devons apprendre à avoir l'intelligence qui vient du ciel. Apprends à voir comment Dieu veut agir dans ta vie. Sois sensible à ce que le Seigneur fait dans ta vie. Apprends étape après étape. Développe-toi de plus en plus. Donc ici, ils vont effectivement faire leur plan. Abraham va accepter Agar.
Abraham aremera Agar.
Elle devient enceinte.
Aratwarinda.
Et alors,
Ama,
ce qui va se passer.
Ibyaciye biba.
D'abord, vous remarquez que Dieu ne dit rien.
Ubwa mbere murabona yuko Imana ntacyo yigeze ivuga.
Voyez, là ici, Dieu ne dit rien.
Aha muri imirongo nta Imana ntacyo ivuga.
Pourtant, Dieu est capable de parler à Abraham, non?
Ariko Imana yari ishoboye kuvugana na Abraham muri umwanya.
Vous n'êtes pas d'accord? Dieu lui a parlé, non? Quand il s'agissait de lui dire certaines choses. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, ah bah de toute façon, si Dieu ne veut pas que je fasse ça, il ne le permettra pas. Ça, c'est l'excuse pour se couvrir.
Oui,
non, de toute façon, si Dieu ne veut pas que je fasse ça, il va m'empêcher de le faire. Dieu ici, est-ce que Dieu va parler ici? Dieu est totalement silencieux. Dieu ne dit pas un mot, il ne dit pas arrête Abraham, tu vas gâcher ta destinée. Ah non, Dieu nous laissera faire. Tu veux faire tes plans, tu veux faire ton business, Dieu te laisse faire. Sauf que maintenant, tu devras assumer tes responsabilités. Et nos erreurs, Dieu nous laisse les faire. Vous avez remarqué ça? Qui a remarqué ça? Oh, les autres, vous mentez. Attendez, ça va vous arriver. C'est clair. Nos erreurs, Dieu nous laisse faire nos erreurs. Dieu avait dit, tu auras de tes entrailles. Les entrailles, c'était bien Sarah et Abraham. Premier candidat, Eliezer. Vous vous rappelez au chapitre 15. Eliezer, Seigneur, voici mon candidat à ma succession.
Dieu
dit non.
Bon,
Seigneur, le temps passe, finalement, je pense que j'ai trouvé un autre plan. Et il y va. Et il fait un enfant. Avec
Agar.
Et alors le pire dans tout ça, c'est Sarah. Parce que c'est Sarah qui initie l'erreur. Et ça va être la première qui va crier contre Abraham. Ah, regardez ça. Ça j'aime bien, entre guillemets. Je trouve ça unique. Donc, il alla vers Agar, verset 4, elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle allume le feu et après elle vient dire ça brûle. Si tu allumes le feu quand tu sais qu'il y a du gaz ou de l'essence dans le coin, craque une allumette, tu vas te brûler. Mets ta main dans le charbon de bois, ne le fais pas, hein, mais mets ta main dans le charbon de bois, tu vas te brûler. S'il est en feu. Et c'est exactement ce qu'Agar va faire. Agar propose, initie l'erreur. Abraham y va sans consulter Dieu. Résultat, un conflit. Il y a des gens qui sont forts pour se mettre dans des histoires. Il y a des chrétiens, on devrait les appeler frères histoire et sœurs histoire. Ils sont tout le temps en train de jouer les victimes, mais ils ne peuvent pas se mettre dans un truc sans faire des histoires. Ils sont tout le temps avec des histoires, ils ne vous parlent que des histoires et ils n'ont que des histoires avec les gens. Ces chrétiens-là, ils n'ont jamais la paix. Ils ont toujours de l'amertume. Ils vivent vite et ils accomplissent rien. J'espère que tu as eu le temps de noter, Bob. Alors, en fait, c'est terrible, ces gens-là. Et Sarah, elle avait ce problème-là, quelque part. Elle initie le problème, elle initie les histoires. Elle se retrouve piégée à son propre piège. Parce que les plans B, rapidement, ou tôt ou tard, en tout cas, ça va nous coûter. Elle s'était cachée très rapidement. Ça
n'a
pas duré longtemps. Sa servante commençait à faire. Elle avait un gros ventre. Elle a commencé à regarder Sarah.
Attends, Sarah,
Et là, Sarah, elle a compris le message. Sauf que c'est elle qui avait allumé le feu. Et qui avait mis tout son foyer en train de brûler. Verset 5. Et là, elle va se permettre vraiment ce qu'il ne faut jamais faire quand vous avez allumé un feu. Elle va jouer les accusatrices. Et Sarah dit à Abraham, elle revient vers son mari, alors que c'est elle qui a poussé son mari à faire ça. L'outrage, les insultes, qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi.
Gusaraya barira burabo ati agakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe kuko nashize inchoreke yanje mu gikiriza chawe maze ibonye yuko ifisinda ica irankengera uhoraho naducira urubanza twe nawe.
Elle était forte la Sarah.
Yari muhinga Sarah kabisa.
Elle allume le feu.
Yaradometse.
La maison brûle.
Inzirasha.
Elle dit bah oui, c'est toi Abraham qui a fait brûler la maison, c'est ta faute.
Ama chatangura kuvuga ngo nikosa jya wera muni minzirikirasha.
Elle était forte hein.
Vous
voyez, ça, c'est le genre de personne qui ne va jamais très loin. D'abord, il n'avait pas de foi à ce moment-là parce que la foi d'Abraham a été testée à ce moment-là. Là, Abraham a failli dans la foi. Quand tu prends le plan B, c'est que tu ne crois pas dans le Seigneur. C'est que dans ta tête, tu essayes de chercher quelque chose. Et tu t'arranges, tu bricoles dans ta tête tes histoires, tu plonges dedans, et après tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Que tu fasses des erreurs, que tu pèches, tu dois assumer tes responsabilités. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. La plupart des chrétiens n'assument pas leurs responsabilités quand ils se retrouvent victimes de leurs propres erreurs. Apprends à assumer tes responsabilités. Parce que vous savez, il y a beaucoup de petites phrases sympathiques qu'on dit sur Internet. Oui, si les autres te voient comme ça, Dieu te voit différemment. Dieu te donnera une chance exceptionnelle. Ne regarde pas tes erreurs, mais regarde plutôt ce que tu vas réussir.
Bon,
okay, tout ça c'est très bien. Sauf qu'on ne vous dit jamais l'attitude que vous devez avoir. Moi,
je
n'ai pas de problème avec les phrases motivatrices, je vous l'ai déjà dit. Mais Dieu donne une deuxième chance à des gens qui se repentent sincèrement.
Sauf
que ça, c'est bizarre, je ne le vois jamais sur Facebook. Oui, Dieu est la deuxième et la troisième chance. Mais quand il voit un cœur repentant, s'il
n'y
a pas de cœur repentant, Dieu ne donnera pas une deuxième et une troisième chance. Il faut un cœur repentant. Il faut assumer ses responsabilités. Quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités, Dieu ne peut pas lui donner une deuxième chance. Parce que cette personne n'a pas l'attitude pour pouvoir avoir une deuxième chance. Dieu est le Dieu de la deuxième, la troisième, oui, la xème chance. Mais pas aux irresponsables. Dieu ne peut pas remettre ta destinée en route si tu as fait de graves erreurs dans ta destinée. Si tu n'es pas capable d'assumer tes responsabilités. C'est-à-dire de reconnaître là où tu as eu tort. Et de dire, c'est vrai, j'ai tout sali, maintenant je vais nettoyer quoi qui m'en coûte. Merci, il a réussi à démarrer et à finir la phrase, c'est fantastique. Il y a eu juste, vous savez, c'est comme les moteurs des fois quand il y a des saletés dans le carburateur, vous appuyez sur l'accélérateur, ça fait boum, boum, boum. Puis après, ça repart bien. Et Dieu, si vous n'assumez pas vos responsabilités, frères et sœurs, Dieu ne pourra jamais vous donner une chance de vous mettre sur les rails. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui ont leur destinée cachée. Ils sont un peu comme Sarah, ils accusent le monde entier. Alors que Sarah était la première coupable dans cette histoire. Elle aurait dû dire, mais quelle bêtise j'ai fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher le Seigneur et comment on va se sortir de ce bourbier parce que je suis humilié.
Et ce qui
n'était pas étonnant d'ailleurs, surtout avec la culture de l'époque. Parce qu'Agar a commencé à se prendre pour la maîtresse. Elle s'est dit, toi, tu n'as pas eu d'enfant, donc moi, je vais être la femme préférée. C'est ce qui s'était passé avec l'histoire de Jacob, avec ses deux femmes. Il y avait de la jalousie, il y avait des histoires entre elles. Et tout ça, c'est très mauvais. C'était une ambiance familiale pourrie. Mais qui était l'initiatrice? C'était
Sarah.
Qui était le responsable dans la globalité? C'était
Abraham.
Parce qu'Abraham a dû refuser. Il l'a accepté. Et ils se sont retrouvés tous les deux avec des problèmes, mais Sarah a été l'accusateur des frères. Vous connaissez ce que c'est qui est l'accusateur des frères? Et vous savez, le diable est très fort pour faire des pressions pour qu'on fasse des choses comme ça, des erreurs, et après qu'on joue les victimes. Quand tu fais une erreur, assume tes responsabilités. Je
me
dis, j'assume mes responsabilités, je nettoierai ce que je dois nettoyer et je m'en remettrai à la grâce de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, frères et sœurs, Dieu nous restaure. Mais si on ne fait pas ça, ça peut devenir une catastrophe dans nos vies. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Passez une bonne soirée et on se revoit dimanche.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.